Alors j'en viens maintenant à la conférence d'aujourd'hui. Donc nous avions invité Gilbert Durand pour parler de la résurgence des mythes et de leurs implications. Et Gilbert Durand, qui est un homme âgé, a été victime d'une chute chez lui, ce qui rend ses déplacements impossibles. Et donc il nous a adressé sa conférence. Et avec son accord et avec toute notre gratitude, c'est Patrick Stacucel, qui est un élève de Gilbert Durand et un professeur de sociologie à l'Université de Montpellier. C'est Patrick Stacucel qui a accepté de lire la conférence et ensuite de présenter un certain nombre d'explications, parce que la conférence, visiblement, était destinée à être agrémentée et développée par Gilbert Durand en cours même de séance. Alors, je présente successivement Gilbert Durand et Patrick Stacucel. Donc, Gilbert Durand est né en 1921 et il est agrégé de philosophie et docteur ès lettres. Il a été créateur de la chaire en sociologie et d'anthropologie culturelle à l'université de Grenoble à partir de 1962. Et là, il y est toujours resté toute sa carrière et il a assuré, je dirais, une très grande influence à travers son centre de recherche sur l'imaginaire et les équipes de CNRS qu'il a dirigées. C'est une influence qui s'est étendue à peu près dans tous les pays du monde, je veux dire, puisque ses travaux sur l'imaginaire ont eu un immense, immense retentissement, bien que c'est probablement en France qu'il y a eu le moins de retentissement, compte tenu de l'ère du temps, de l'esprit du temps. Et je veux dire, c'est tout à fait important qu'aujourd'hui, non pas on redécouvre, mais dire que Gilbert Durand soit placé vraiment à sa véritable place. Il ne faut pas oublier dans la carrière de Gilbert Durand aussi ses engagements, notamment ses engagements au moment de la résistance, puisqu'il a été Croix de guerre 39-45, médaille de la déportation et de l'internement, médaille des FFI, et que Patrick Stacucel me disait qu'il vient de se voir décerner par l'État d'Israël la médaille des justes, qui est peu diffusée. Alors, ces publications, elles sont très nombreuses, mais je vais signaler celles qui sont importantes, les plus importantes. Alors, la publication majeure, c'est sa thèse, « Les structures anthropologiques de l'imaginaire », Introduction à l'archétypologie, qui est de 1960 et qui a été réédité en 1992 chez Duno, après avoir manqué un certain temps. C'est un ouvrage que vous pouvez trouver actuellement. Hein, c'est la somme de Durand sur les structures anthropologiques de l'imaginaire. Il a écrit aussi le décor mythique de la Chartreuse de Parme, les structures figuratives du roman stendhalien en 61. L'imagination symbolique en 64 aux presses universitaires de France, réédité en 84. Science de l'homme et tradition, le nouvel esprit anthropologique, 75, réédité chez Duno en 92. Figure mythique et visage de l'œuvre, de la mythocritique à la mythanalyse, Duno 92. L'âme tigrée, qu'on trouve encore en livre de poche. Les pluriels de psyché chez De Noël en 81. Beaux-arts et archétypes aux presses universitaires de France 89. L'imaginaire, essai sur les sciences et la philosophie de l'image, Attier 94. Introduction à la mythologie, mythe et société, chez Albin Michel en 95, etc., etc. Hein, c'est une œuvre majeure, 321 publications et ouvrages, et encore une fois, un immense retentissement international. Alors, ces travaux, son intervention du jour va être lue et ensuite commentée par Patrick Stacucel. Patrick Stacucel est sociologue, il est né en 1956 et il est philosophe de formation, né en 1956. Il a été professeur de philosophie à Chambéry et Grenoble. Il est devenu enseignant d'université, assistant et maître de conférence à Toulouse, puis à l'université de Montpellier III, Paul Valéry. Et il est maintenant professeur de sociologie à l'université Paul Valéry ou encore Montpellier III. Je cite seulement ces deux derniers ouvrages. Mythologie des formes sociales, Balzac et le Saint-Simonisme, chez Klingsic. Et puis, très récemment, ces temps-ci, Charles Fourier, sur le penseur socialiste du XIXe siècle, Charles Fourier, chez Desclée de Brouwer, cette année 2000. Alors, je lui donne la parole. Et en le remerciant très très vivement de s'être chargé de cette transmission de parole. Merci.
Bien, je remercie Yves Michaud et je vous remercie tous d'être venus nombreux. Je devine votre déception. Gilbert Durand n'est pas là, mais par ma parole, je vais essayer de communiquer au mieux ce qu'il souhaitait vous dire, sachant que moi qui l'ai eu comme professeur pendant de nombreuses années, je peux dire que sa chaleur est communicative et que pour Gilbert Durand, le travail universitaire, la rigueur académique ne se dissocie pas d'une grande générosité intellectuelle. Générosité intellectuelle qui lui faisait reprendre un jour une formule bachelarienne, il est vain de se croire supérieur aux autres tant il est difficile de rester égal à soi-même. Et je crois que toute l'œuvre de Gilbert Durand est marquée par cette volonté d'abord de croiser les savoirs, de faire en sorte que quand je dis croiser les savoirs, ça ne veut pas dire juxtaposer. Et je crois que là, les volumes que Yves Michaud a évoqués le montrent bien. C'est dans un esprit très durandien. Croiser les savoirs, ça veut dire qu'entre les sciences de la vie, les sciences de la culture, la compréhension de la société, il y a des interfaces. Et peut-être que je n'ai hélas pas pu suivre les conférences précédentes, mais je crois que dans ce projet, il y a aussi l'idée que cette fin de millénaire et de siècle n'est pas simplement l'occasion d'un bilan et d'une synthèse, mais aussi peut-être une façon de refonder épistémologiquement notre rapport à la connaissance. Et je, en suivant l'exposé d'Yves Michaud et en regardant le programme, je me dis qu'effectivement, Gilbert Durand eût été bien dans cet esprit-là, tant il est vrai qu'il a œuvré à l'université dès les années 60 pour effectivement que les savoirs non ne se superposent pas mais se mettent en écho les uns par rapport aux autres. Donc je vais maintenant, cette présentation étant faite, donc vous lire le texte de Gilbert Durand. Je le commenterai discrètement lorsque cela me paraîtra nécessaire. Et après avoir lu ce texte, j'avancerai un certain nombre de propositions concernant l'œuvre de Gilbert Durand, la manière dont elle s'est constituée, et peut-être, évidemment, toujours difficile de prendre la parole à la place de quelqu'un, et ô combien difficile pour celui qui a été son élève, et qui porte aujourd'hui une responsabilité particulière. Donc je vais essayer peut-être d'avancer pour une partie du public qui est peu familiarisé avec cette démarche, un certain nombre d'aspects que je présenterai de façon assez didactique. Donc le texte de Gilbert Durand s'intitule « La résurgence du mythe et ses implications ». Lorsque l'on propose un titre à un public, il faut d'abord s'assurer que ce dernier entend le même langage que parle le conférencier. Autrement dit, il faut toujours commencer à s'accorder sur des définitions. Et, certes, une définition, entre guillemets, ne donne jamais un sens péremptoire puisque les dictionnaires nous montrent qu'elle varie au cours des âges et que toute dénomination rassemble toujours sous un vocable le bouquet des étymologies, la gerbe des réceptions sémantiques, si l'on veut faire référence ici aux travaux de Hans Robert Jos sur l'esthétique de la réception, qui montre qu'effectivement, le sens d'une œuvre est une gerbe des réceptions sémantiques des époques passées. Mais enfin, il est absolument nécessaire, en préliminaire, de s'entendre le mieux possible sur le sens que l'on va donner à ces notions opératoires. Il y en a trois proposées dans notre titre. Résurgence, mythe, implication, implication au pluriel. La première, la résurgence, semble la plus facile à énoncer. C'est une image aquatique, ou mieux, potamologique. Elle exprime l'idée qu'une rivière disparue dans des profondeurs peut revenir à la surface. Définition en apparence simple et définition qui met l'accent sur l'idée de retour. Mais définition grosse d'une puissante assertion de répétition, de redondance, qui sous-entend toute une philosophie et même une épistémologie du retour. C'est en cela que la notion de résurgence et de retour sont parfaitement associées. La seconde, le mythe. Le mythe en tant que reprise et redéfini dans les activités collectives relatives à l'imaginaire. Le mythe, dès son analyse, et ce que permet tout dictionnaire de grec, et nommément notre bon bailli, nous propose une intéressante duplicité. Mythos, avant Homère, est une notion très générale qui signifie tout discours. C'est le sens 1 donné dans le bailli. Après Homère, le sens évolue, il y a un second sens, sens 2, toujours dans le bailli, plus restreint. Le mythe, cette fois-là, renvoie à la parole fabuleuse, à un récit fictionnel, et introduit la notion de mythologème. Il y aurait donc une scission sémantique de la notion, perceptible chez Platon, qui, quoique disciple de Socrate, établit une distinction entre vérité déduite par la dialectique socratique et vérité présentée par le mythe, sans que toutefois, bien au contraire, orphisme oblige, Platon dévalue cet immémorial accès à la vérité. Mais cette distinction qui s'installe entre mythos et logos va hanter, à partir d'Aristote et de sa redécouverte chez Averroès au XIIe siècle, par la scolastique médiévale, toute la pensée et la pédagogie de l'Occident. Et si cette dernière était encore, pour le petit esclave du Ménon, la chose la mieux partagée, très vite elle deviendra le fait d'une aristocratie du savoir, tant par les savants naturalistes qui exploitent et décrivent les mirabilia du monde, aristocratie expérimentale si l'on peut dire, que par les spécialistes du raisonnement démonstratif, rhéteurs d'abord, si ce n'est sophistes, mathématiciens ensuite, à partir, on pourrait dire en gros, de Galilée, de Fermat, Cardan et Descartes. C'est qu'à la description du naturaliste, comme à la déduction du scientifique, s'oppose alors un sermo qui n'est ni descriptif ni déductif. Le sermo mythicus, qui possède ses propres formes, à savoir un temps fabuleux des commencements, comme dit Mircea Eliade, le fameux illud tempus, hors du battement anthropique des pendules galiléennes, sorte de durée concrète, entre guillemets, que repérera bien Bergson au début de notre XXe siècle, et qui échappe au diktat d'une dissymétrie, telle que, par exemple, Olivier Costa de Beauregard le développera dans d'autres domaines. Diktat d'une dissymétrie qui lui imposerait de l'extérieur un avant et un après. Le devenir du sermo décide des événements qui adviennent. Et le récit permet alors une sorte de sempiternalité, puisqu'il peut toujours se redire ou se relire. Par là, les héros du récit, mythique, romanesque ou théâtral, sont magnifiés par une sorte d'éternité inhérente à la répétition infinie. Mais aussi, un espace, pourrait-on dire avec un physicien contemporain, Bernard d'Espagna, de non-séparabilité, système dynamique de symboles, selon ma définition, écrit Gilbert Durand, définition reprise par des théoriciens et des criticiens de la littérature. On pense ici à Pierre Brunel. Donc, système dynamique de symboles, ai-je dit, qui affirme sa prégnance, et là je renvoie à Ernst Cassirer, c'est-à-dire sa réelle présence, et là on peut renvoyer à George Steiner, par un type d'identification qui échappe aux localisations tridimensionnelles d'Euclide et de Descartes, Et Gilbert Durand fait allusion aux travaux mathématiques contemporains. Je pense qu'il s'agit des travaux sur la morphogénèse de René Thom. Puisqu'il ajoute, selon le mot de René Thom, il ne s'agit plus d'une identité d'état civil, entre guillemets, mais d'une identité à distance, ubiquiste, où ce qui identifie est l'analogie, le semblable, les qualités, les affinités électives, pour parler comme Goethe, et non pas les emplacements séparés dans un contenant neutre, une enveloppe homogène. Le mythique est donc bien un message de nulle part, comme l'avait écrit Claude Lévi-Strauss. Un message simplement enrobé de littérature. Et on peut ici faire référence à la notion de Pierre Brunel, la notion de littérariser, où le nom est simple indice, et cette notion de simple indice renvoie, dans mes travaux, écrit Gilbert Durand, à la notion de schème verbal, c'est-à-dire que le récit mythique, quoique souvent littérarisé, spécialement en Occident, fonde sa puissance de vérité sur des procédures de redondance qui s'apparentent à celles de la musique, plus qu'à celles de tout autre sermon démonstratif ou descriptif. Ce que Claude Lévi-Strauss avait souligné à plusieurs reprises. Cette parenté apparaît universellement, toujours et partout, semper et ubique, le mythe se chante, se psalmodie, et l'opéra occidental a bien montré, de la favola d'Orfeo de Monteverdi au Ring de Wagner, cette connivence constitutive du récit mythique et de la musique. L'un et l'autre sont fondés sur la redondance, le refrain, le rythme musical, les variations répétitives, les rimes sémantiques du mythe. Et d'autre part, l'art des variations, où le même adopte les colorations de l'autre. Mythe et musique proposent par cette puissance de répétition qui les constitue une vérité constamment ouverte. Or, c'est fermement établi sur cette particularité transcendantale, entre guillemets, si l'on peut dire en référence à Kant et surtout à Novalis, souhaitant l'avènement d'une fantastique transcendantale, que résument trois formes a priori de la réalisation mythique qui fondent la définition du mythe, à savoir, et je donne ces trois formes a priori donc de la réalisation mythique, à savoir d'abord une identité, entre guillemets, une identité tout autre qui se libère des axiomatiques spatio-temporelles d'Euclide comme de Newton, admises par Kant, et se fonde sur une puissance d'analogie, de métaphore et de métonymie, infiniment ouverte, délocalisée, négantropisée, par sa situation hors du temps des horloges et hors de l'espace de l'état civil. Deuxièmement, autre forme a priori et bien connue si on renvoie à la critique de la raison pure, le temps, justement, qui est la durée concrète des choses. Car le schème de durée, et là il s'agit du verbe durée, échappe totalement au destin de la finitude. Leur fondement poétique, selon Hölderlin, ce qui demeure les poètes, le fonde, et spécialement des choses mentales. William James, qui parle du courant de la conscience. Cette durée qui, justement, se remémore et échappe à la dissymétrie de toute entropie, comme l'a montré sur le plan de la physique contemporaine Olivier Costa de Beauregard. Enfin, l'espace, qui n'est plus le cadre vide des séparabilités, comme Descartes l'affirmait, démenti par Leibniz, mais qui est la permanence de qualités certes systémiques, mais non séparables, qui est liée à la chose elle-même. Albert Einstein adopta un espace riemannien courbe, dont la courbure est dictée par la masse et la vitesse de l'objet étudié. Peut-on encore parler de forme a priori dès lors que l'identité se monnaie en une infinité d'analogies. Dès lors que le temps est une durée propre et relative à l'objet qui dure, alors que l'espace ne donne sa courbure qu'en dépendance des qualités physiques, la masse, la vitesse de la chose. N'y a-t-il pas plutôt un pouvoir de déformation ? Et là, déformation, en séparant le préfixe « dé » du terme « formation ». N'y a-t-il donc pas plutôt un pouvoir de déformation a priori ? Bachelard avait noté qu'un tel pouvoir est précisément celui de toute imagination créatrice. Par un paradoxe qu'il faut maintenant souligner, nous constatons que la distinction de plus en plus affinée par Bachelard et poussée qui, dans un premier temps, dévalue la connaissance mythique par rapport à la connaissance scientifique, très paradoxalement, et nous venons de faire appel pour définir le temps mythique aux physiciens contemporains, Costa de Beauregard, Bernard d'Espagna, et à l'emblématique Einstein, tout cela s'est insensiblement et de façon accélérée depuis 1905, théorie de la relativité généralisée, physique quantique, tout cela effectivement vient conjoindre la forme cognitive du mythe aux formes de la recherche scientifique la plus contemporaine. Et c'est là que se situe notre troisième définition qui renvoie au titre de la conférence, résurgence, mythe et implication. Je vais parler de l'implication. Implication, entre guillemets, du mythique à son fondement même, si paradigmatique pour l'Occident, la science de la matière, la physique. Au fondement, disais-je, car cette notion d'implication, depuis le physicien David Bohm, est devenu le concept majeur de la cosmologie scientifique, le concept, entre guillemets, recteur, qui périme celui d'explication. C'est, et je fais référence, écrit Durand, au fameux, et il ajoute, on y soit qui mal y pense, au fameux colloque de Cordoue, en 1979, que je rencontrais pour la première fois le physicien anglais, ainsi qu'Olivier Costa de Beauregard et Frithjof Capra. Ce qui est intéressant chez Bohm, c'est que ce dernier était parti jadis d'assises matérialistes dans la pensée de la physique classique d'avant Einstein et d'avant Max Planck, et que ce sont les données contemporaines de la physique qui contraignirent le chercheur à abandonner le canevas logique de l'explication qui s'articule sur la séparabilité spatiale, sur la dissymétrie du temps causal et sur la simplicité analytique, pour endosser au contraire une épistémologie de l'implication, jusqu'ici chargée d'une acception péjorative. Rappelons que « implicatio » signifie « embrouiller, mêler », donc le terme « implication » n'a pas forcément bonne presse dans le lexique scientifique. Le verbe « implicare » veut dire « mêler ». Mais prenons bien garde, ce verbe « impliquer » dans la voix active comme dans sa voix passive, être impliqué, donne un concept unique d'implication où, de façon quasi holographique, si on fait référence à Pribram, ou si l'on préfère fractal, si l'on fait référence à Mandelbrot, ou encore holistique, pour parler comme Koestler. Donc ce verbe impliqué, dans ce verbe impliqué, la partie répond pour le tout, et vice-versa. L'impliquant et l'impliqué sont identiques, ou pour mieux dire, les procédés d'identification d'un tout et de ses parties suivent, entre guillemets, la même forme. C'est exactement ce qui se produit dans le feuilletage des redondances d'un mythe, où la partie reproduit, entre guillemets, en petit, belle expression que Victor Hugo applique aux structures du Hamlet de Shakespeare, la partie reproduit en petit, la situation et les structures du tout. Il ne s'agit pas de tautologie, mais de changement de plan de l'objet étudié. Il en résulte en généralisant que toute démarche scientifique implique un mythe. Et je renvoie ici aux travaux de Gerald Holton pour Niels Bohr et Einstein. comme tout mythe implique une démarche cognitive, si l'on pense à Zafiropoulos ou aux écrits de Michel Cazenave. L'adjectif implicitus signifie ce qui est virtuellement contenu dans une proposition ou un fait sans être formellement exprimé. Je répète, ce qui est virtuellement contenu dans une proposition ou un fait sans être formellement exprimé. Qui ne voit que cette définition s'applique par exemple immédiatement au principe d'incertitude d'Heisenberg, prix Nobel en 1933 de physique. Principe d'incertitude où la place de la particule ne peut s'expliquer et ne peut expliquer ses qualités physiques et vice-versa. Ou encore, c'est pour la mécanique ondulatoire de De Broglie, la conjonction systémique d'un corpuscule et d'une onde qui constitue son champ d'implication. Dès lors, toute matière ne se déploie plus explicitement en chaîne dissymétrique de simplices à la manière cartésienne, mais au contraire, ne se saisit comme matière que par la complexité et la symétrie des paramètres qu'elle implique. Corpuscule et leur pluriel gravitation, états ondulatoires liés systémiquement au corpuscule, etc. L'implication est aussi un ensemble complexe de déterminations, non plus un simple déterminisme causal linéaire, excluant le principe du tiers exclu, tous les éléments qui paraissent étrangers, altérité ou contraire, ou sinon excluant tout ce qui apparaît comme contradictoire. Et ici, on peut faire référence aux travaux qui ont remis l'accent sur la réintégration du tiers exclu dans ses principes complexes, et Gilbert Durand signe von Bertalanffy. Je me souviens ici d'un exemple de complication d'une notion par la physique contemporaine dont Bachelard nous entretenait dans ses cours. Par rapport à la notion classique de la fréquence, qui ne comporte que deux paramètres, unité de temps et nombre de variations, Bachelard, au contraire, avançait la récente formule de Balmer, qui faisait intervenir dans le calcul de la longueur d'onde la constante de Rydberg, présente elle-même dans tous les spectres des éléments chimiques, est liée elle-même à la constante d'Einstein, vitesse limite de la lumière. Dès lors, dans la connaissance scientifique, la complexité à laquelle Edgar Morin a consacré une partie de ses travaux, supplantait la simplicité analytique. Et toute la logique socratico-aristotélicienne qui avait gouverné la pensée de l'Occident se trouvait subvertie. Et le savoir retrouvé des pensées antiques sur lesquelles allaient s'établir tous les discours nouveaux. David Bohm redécouvrait la pensée d'un Nicolas de Cuse. Nicolas de Cuse, 1401-1464. Et la vérité oxymoronique de la docta ignorantia, où c'est l'unité du mundus, unus mundus, qui dicte la diversité de la création et où se réconcilient matière et esprit, forme et fond. Corps et esprit sont facteurs d'un sous-ensemble plus vaste qui est leur fondement commun. Et c'est là que tout récit mythique peut n'être plus exclu de l'efficacité du savoir. C'est là où les barrières entre la connaissance ordinaire et la connaissance scientifique s'estompent en un gigantesque et cosmique oxymore logique. L'univers n'est donc plus un lieu des séparations et des liquidations anthropiques, il porte une implication venue d'ailleurs, Costa de Beauregard l'a montré, Aspect, Pribram. Cette connaissance unifiée éclaire la réflexion, au premier abord scandaleuse, d'un physicien contemporain. Et je cite Bernard d'Espagna, « Le mythe de Prométhée, écrit-il, le mythe du paradis terrestre et le modèle planétaire de l'atome, modèle de Niels Bohr, sont pleinement semblables. D'où l'écart d'une science contemporaine qui reconnaît la valeur du mythe d'avec les savoirs longuement démythifiés de l'Occident et le recours à des modèles orientaux de la connaissance, le Tao avec Capra, le Veda avec Schrödinger, l'emblème du Taiji adopté par Niels Bohr, la notion de Maya prise par Costa de Beauregard, etc., etc. Telles sont les immenses conséquences de la substitution méthodologique, et Gilbert Durand emploie la métaphore de méthodologique, substitution donc méthodologique d'un univers impliqué et complexe, véritable champ épistémologique du signifié par rapport à un univers de simples explications se bornant aux chaînes temporelles et excluantes des signifiants tels qu'un certain rationalisme étroit ou un certain positivisme daté pouvait encore le véhiculer. Troisième aspect de ce propos, mais c'est à cette reconnaissance au sommet scientifique de l'implication et de ses procédures que correspondent, dans bien des orientations contemporaines, les manifestations de l'implication mythique. On ne peut, dans un entretien comme celui-ci, et moins encore dans l'exercice qui est le mien, détailler les territoires d'invasion des procédures implicatives et du retour du mythe. Je renvoie ici aux deux livres de Gilbert Durand, cité dans sa conférence, « Introduction à la mythologie » publié chez Albin Michel, et « L'imaginaire, science et philosophie de l'image », qui est un livre, disons, plus succinct, publié chez Attier. Notons cependant que la percée en force dans les disciplines de la physique de la théorie de l'implication au début du XXe siècle s'est manifestée dans l'institution des psychologies nouvelles, psychologie des profondeurs, psychologie de l'épaisseur psychique, qui ont d'emblée subverti les anciennes psychologies exclusives et monopolisantes de l'entendement rationnel, et on peut faire référence ici à Descartes, à Spinoza, à Kant, ou encore à l'explication sensualiste et atomistique que l'on trouve chez Condillac ou Gassendi. La découverte de l'inconscient, de Freud à Ellenberg, parce qu'elle explorait les sous-sols non rationnels de la psyché, ouvrit toute grande la porte au modèle cognitif du mythe. Avec Freud et le fameux mythe d'Œdipe, la psyché prenait corps, exhibait ses racines profondes. Encore, certes, sous une symptomatique pathologique, mais qui devait d'elle-même se complexifier avec les néo-freudiens, Tisseron, Haché, Torok, Karl Abraham, en doublant encore le dédoublement freudien par des prolongements transgénérationnels, crypte, fantôme, mais qui aussi devait vite normaliser les topiques freudiennes avec Carl Gustav Jung et son école. Tous les mythes, puer aeternus, l'enfant éternel, magna mater, vieux roi, etc., devenaient le langage fondamental de la part d'ombre. Georges Bataille parlera dans un sens voisin de la part maudite, qu'implique toute expression psychique. La fameuse individuation jungienne n'est en son fond qu'un processus d'implication. Dans toute la descendance si riche du psychologue de Zurich, qu'il me soit permis de citer, écrit Gilbert Durand, mes amis James Simon, Michel Cazenave et le regretté Pierre Solier. L'avènement d'une psychologie des profondeurs révélait une des implications majeures dans la résurgence contemporaine des mythologies. Au feuilletage lévi-straussien constitutif du mythe, correspondaient les paliers topiques de la psyché. Cette implication allait encore être renforcée par l'expansion des sociologies de terrain, et de l'anthropologie culturelle, coïncidant avec l'effondrement des colonialismes. Soudain, les ethnologues découvraient dans les sociétés jusqu'ici rendues muettes sur leurs propres valeurs toute une mythologie, la plupart du temps non littéralisée, donc une mythologie essentiellement orale, qui rendait compte à la fois des différences de ces sociétés et à la fois de l'universalité géographique de l'esprit humain capable d'entendre ces mythes. Une mythologie générale pouvait se constituer ou était impliquée, à côté de d'autres mythologies classiques gréco-latines, les mythes de l'Afrique noire, avec l'école de Marcel Griaol, ceux de l'Océanie, avec ceux de Linard, ceux des Amériques indiennes, avec Claude Lévi-Strauss, ceux du monde noir, afro-brésilien, avec Alfred Metro, Roger Bastide, Verger. Le vaste savoir de Roger Bastide, qui fut mon ami et mon maître, lui permit de confronter et de jeter un pont entre le jeu mythique des psychanalyses et celui des sociétés. Et de bien souligner... avec l'œuvre d'André Gide comme modèle, que les non-dits, les latences, l'implicitus, sont quelquefois plus décisives dans l'identification de l'objet, individu ou société, que le topos du manifeste, du patent. D'où l'importance de l'obscur et du confus au plus profond des lumières dont parle Roger Bastide. C'est ici qu'il faut se démarquer d'un certain historicisme, fossile tenace du mythe positiviste qui aligne linéairement et dissymétriquement l'effet et la cause. Post hoc ergo propter hoc, qui place le fait et la postérité comme critère absolu et péremptoire de toute vérité, avec un mépris psychologiquement suspect de toutes les avancées de la science contemporaine. Complexité, systémicité, symétrie, etc., et spécialement avec une acrimonie haineuse pour ce qu'ils appellent, osent appeler, des élucubrations archétypologiques. Or, toute histoire, tout comparatisme anthropologique ne peut exister que si l'on postule un consensus cognitif entre les cultures. Les réceptions, y compris celles de l'historien ou de l'ethnologue, toutes les cultures humaines, distantes dans le temps historique comme dans l'espace géographique, partent ou sont susceptibles d'aboutir à ce consensus cognitif. Histoire et ethnologie seraient impossibles si elles ne postulaient pas que les structures cognitives du savant moderne qui étudie des cultures si lointaines n'étaient pas identiques aux pensées antiques, étrangères et sauvages dont ils rendent compte. Au mythe de l'exclusion absolue des altérités des humaines conditions et réceptions, au mythe prométhéen du primitif et du périmé qui ne produit qu'un méprisant racisme intellectuel, il faut opposer et substituer le mythe de la confraternité des races et des cultures. Remplacer le raisonnement raciste de Sepulveda par le mythe de Joseph et ses frères dont parle Thomas Mann. Reste peut-être enfin une implication aussi fondamentale, mais nous allons le dire en sens diamétral inverse de l'implication épistémologique, c'est l'implication dans une politique dont les deux traits systémiques constants sont l'implosion d'autre part, l'implosion d'une part et de l'autre l'opposé ou la transfiguration, pour reprendre ici le titre de Michel Maffesoli, la transfiguration du politique. Implosion de la connaissance de nos sociétés, où les sciences ont justement défini l'implication comme difficile et élitiste, complexification du savoir. Cette complexification n'étant permise qu'à des cerveaux au quotient intellectuel très élevé, d'où le ridicule d'une pédagogie classique qui s'obstine à produire entre guillemets 85% de bacheliers, sinon 85% de prix Nobel. Mais de cette raréfaction résultent des sociétés, où le progrès technologique dans la transmission La perfection des images et des informations comble cette distance inaccessible d'avec une connaissance élitiste dont les difficultés et les complexifications ont, nous l'avons constaté, permis aux niveaux les plus pointus de découvrir l'efficacité cognitive de l'implication. Et tout cela dans une boulimie d'informations souvent iconiques qui véhiculent une large connaissance ordinaire, d'où par définition le mythe n'est jamais interdit et exclu. L'après-Bachelard, où nous vivons, fait que la science de pointe qui découvre à grand renfort d'équations la procédure d'implication n'est plus coupée des savoirs phénoménologiques, aurait dit Bachelard. Et il n'est plus besoin de deux amours pour réconcilier l'élitiste connaissance scientifique et la poésie ordinaire. De nos jours, dans cette disjonction constitutive elle-même, c'est le monde un, d'un savoir qui unit le dire d'une science et le dire des poétiques. Mais dès lors, nos pédagogies démocratiques sont périmées. Elles nécessitent, elles aussi, une transfiguration. Et cette transfiguration se manifeste par disqualification de la compétence des autorités pédagogiques et politiques. L'école de la nation, si bellement construite sur l'exclusivisme positiviste, à cette école se substituent aujourd'hui les apprentissages tribaux. Le temps de l'école est passé, c'est le temps des écoles qui commence. Nous ne portons pas ici un jugement de valeur, mais nous faisons simplement un constat sociologique. L'école est finie, comme chantait il y a quelques années Sheila. Les chaînes et les bouquets informationnels fleurissent. La transfiguration par les mythes du bio, et même avec de très sérieux chercheurs de Gaïa, se dresse sur les ruines d'une mondialisation sociétale dont chaque jour dénonce la nocivité, ou du moins la vanité, vache folle et marée noire. Tchernobyl et Kalachnikov nationalistes et meurtrières. Les sectes pullulent dans nos espaces vitaux. Mandarome ici, Mormon là, Amish en Pennsylvanie, mouvement raélien au Liechtenstein, Gilbert Bourdin en Provence, temple solaire en Valais au Canada. Les néopaganismes et leur mythologie reviennent en masse et Dionysos projette son ombre. Le tout véhiculé par l'inflation mythique chez le libraire, des romans primés à grand renfort de publicité, des films au cinéma et à ses festivals, l'audiovisuel dans chaque home, jusque dans la chambre à coucher. Le mythe, par tous ses moyens gigantesques de la technique, résurge donc et imprègne toute la pensée. De Wagner et de Zola, ces grands remythificateurs selon Thomas Mann, jusqu'à Fellini ou Spielberg pour le cinéma, d'Einstein à Niels Bohr, comme l'a bien montré le physicien Gerald Holton. Et les structures des épistémologies se formulent dans la même galaxie de l'implication. Et cela, nous espérons l'avoir ici trop brièvement indiqué, parce qu'à tous les niveaux pensants du bassin sémantique qui couvre le XXe siècle, les structures feuilletées et redondantes qui définissent le mythe, après un si long divorce, coïncident terme à terme avec celle du nouveau paradigme des sciences pilotes de l'Occident, l'implication généralisée. Mais ces retrouvailles du mythique, revenues d'ailleurs que de notre modernité occidentale, et du scientifique le plus pointu, doit dicter une pédagogie de la civitas humaine, tout autre que celle si périmée de l'école raciste, voire la citation de Jules Ferry par l'avocat Jacques Vergès au fameux procès de l'Obersturmführer Barbie. Et cette pédagogie du millénaire qui commence ne peut s'instituer que par une transfiguration politique et par une éthique décisive qui proscrive de l'action de l'homme tout ce qui n'est plus humain, qui liquide toute bestialité coupable des crimes contre l'humanité. Je vous remercie.
Je crois que la situation dans laquelle nous sommes est un peu délicate, mais le mythe aidant, on va s'en sortir. puisque ça communique et l'implication est donc aussi. Donc, bien que ce soit pas du tout habituel, je crois que ce qui serait bien, c'est compte tenu de la connaissance particulière que Patrick Tacussel a de l'œuvre de Durand, c'est que éventuellement vous adressiez vos questions plutôt qu'il vous fasse un exposé supplémentaire qui ne répondrait pas forcément aux questions. Ce serait que vous posiez les questions et puis qu'il y réponde en tant que Patrick Tacussel, pas en tant que bien sûr Gilbert Durand, hein, mais étant entendu qu'il y a cette connivence particulière et cette implication. Voilà, donc je crois qu'on va passer aux questions comme ça, hein, et étant entendu que ce ne sont pas les... Tacussel ne parle pas au nom de Gilbert Durand, mais au nom de sa connaissance et de sa familiarité particulière avec le travail. Voilà.
Je crois que c'est Michel Serres qui a dit qu'il n'y avait pas de pur mythe, de plus pur mythe qu'une science pure de tout mythe. La question, c'est Bassarab, le physicien quantique Bassarab Nicolescu parle de tiers inclus. Et il en appelle à une transdisciplinarité. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, je crois que je l'avais dit en exposé du préliminaire du propos, je crois qu'il y a quelque chose qui guide le travail et la pensée de Gilbert Durand, qui a une formation de philosophe, qui a été un élève de Bachelard, et qui a été aussi marqué par des grands maîtres de la philosophie, comme Alquier, comme Michel Alexandre, et qui a toujours eu le souci. Le terme de transdisciplinarité est bien choisi parce que l'idée de base de l'œuvre durandienne, c'est que il y a des écoles de pensée, mais elles convergent toutes vers une unité des savoirs. On peut dire que ça peut vous paraître curieux, vu la critique que Gilbert Durand adresse au positivisme, que de retrouver par certains côtés cette volonté d'unité des savoirs, mais ce serait un angle de vue biaisé que de croire cela. En effet, pour Gilbert Durand, il ne s'agit pas de hiérarchiser ces savoirs, de leur donner une dignité, ontologique, supérieure les uns par rapport aux autres, hein, comme dans la classification des sens du système positiviste Comtien. Il s'agit au contraire de voir ce qui, à un moment donné, est problématisé dans une connaissance et trouve un écho, thématique ou programmatique dans une autre. Pour lui, c'est cela, l'interdisciplinarité. Et je vais vous prendre un exemple tout à fait précis. Lorsque Gilbert Durand entreprend d'analyser le roman stendhalien, et notamment d'essayer de voir comment la Châteauresse de Parme met en évidence un certain imaginaire social que le talent du romancier va mettre en relief, il met aussi, par la même occasion, en rapport ce roman avec tout un contexte historico-politique, mais il ne fait pas pour autant de la critique littéraire sur la base d'une vision historico-politique de l'œuvre. Il essaie de voir ce qui, à un moment donné, a nourri des images littéraires particulières à partir d'images collectives. Mais cette démarche-là, pour lui, et là on peut dire qu'il est très bachelardien, elle vaut également dans l'organisation des connaissances scientifiques. Je pense ne pas trop m'avancer en disant que Gilbert Durand a reçu avec beaucoup d'intérêt des travaux comme ceux, par exemple, de Kuhn sur la révolution, la structure des révolutions scientifiques, etc. Tant il est vrai que pour lui, à un moment donné, il y a effectivement, non pas des discours souches, hein, c'est pas des formations discursives au sens de Michel Foucault, mais ce sont des constellations d'images. Et ces constellations d'images, effectivement, nourrissent à un moment donné un certain nombre de, j'allais dire, de formes de connaissance ou de, j'allais dire, de dimensions d'accès au savoir. Donc, vous voyez, ça se sépare, on peut dire, des régimes de vérité, j'allais dire, foucauldiens. Ce n'est pas non plus, au sens strict du terme, des paradigmes, mais cette interdisciplinarité, elle vise effectivement à voir comment, à certaines époques, des polarités qui sont celles de l'imaginaire vont devenir dominantes dans certains contextes. Et on pourrait prendre effectivement des exemples dans le domaine politique, etc. Vous verriez que si on faisait une analyse mythographique ou mythanalytique des thèmes dominants de la propagande totalitaire, par exemple nazie ou stalinienne, vous repéreriez très 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 rapidement, à travers une perspective métacritique, ce que par ailleurs d'autres analystes, disons plus politistes, ont mis en évidence lorsqu'ils ont voulu essayer de voir ce qui faisait que les deux systèmes coïncidaient, je ne dis pas dans leur forme structurante économico-politique, mais dans parfois un certain nombre d'images mentales qui trouvaient d'ailleurs leur concrétisation dans des affiches. Il ne faut pas oublier que l'imaginaire, c'est aussi des affiches, des images, etc.
Monsieur.
Oui. Nous sommes en train d'écouter une série de conférences sur les hauts et les bas de la culture. Je n'avais pas bien compris au début ce que ça voulait dire. En fait, il est question dans ces conférences des valeurs et de ce qu'on pourrait appeler les antivaleurs. Or, suivant les goûts, les valeurs des uns ne sont pas les mêmes que celles des autres. Il y aurait, d'après la conférence d'aujourd'hui, il y aurait un certain mariage entre, pour employer un terme vague, un certain mariage entre la science moderne et les mythes. Et, là, il y a un accord. Et par contre, il y a une critique très nette à un moment donné du spatio-temporel. Du spatio-temporel, et on peut dire l'emblème, on serait Descartes. Cette critique contre Descartes n'est pas nouvelle, d'ailleurs, puisque il y a eu une critique par un neuroscientifique qui est Damasio, un neuroscientifique très reconnu, mais qui montrait que chez Descartes, il y avait une absence de prise en compte de l'affectif par rapport au rationnel. Et alors, on peut se demander si, finalement, Damasio ne rejoint pas par une voie tout à fait différente ce qui est avancé dans la conférence actuelle.
Ah, vous posez une question qui est celle, précisément, de la réception de l'œuvre et... Et Michaud est également philosophe, donc une œuvre, elle possède toujours un degré d'exemplarité. Et c'est ce qui fait que, par exemple, dans la philosophie, un certain nombre de textes sont bien connus des étudiants qui commencent leurs études, jusque dans les concours, et après ce sont des textes sur lesquels on revient. Ce degré d'exemplarité fait qu'à un moment donné, le commentaire que l'on fait dessus les positionne, et dans l'histoire de la philosophie, et dans le contexte dans lequel ils ont été écrits. Je crois que Gilbert Durand, même lorsqu'il formule des critiques au positivisme ou lorsqu'il formule des critiques, par exemple, à Cassirer ou à l'école de Marbourg, il y a toujours chez lui l'idée de dire « mais dans le moment où ça a été dit, ça représentait effectivement un moment essentiel de la pensée occidentale ou de la pensée philosophique. » Mais il y a toujours également chez lui, alors là, excusez-moi, je parle dans un débat trop pointu, mais il y a toujours chez lui aussi le fait de dire il y a des ombres, y compris chez des auteurs dont on privilégie à un moment donné une certaine lecture. Sans vouloir rentrer dans des détails trop techniques, on peut dire qu'il y a aussi un Descartes nocturne. Il n'y a pas qu'un Descartes, j'allais dire, diurne et apollinien. De la même manière, si vous prenez un auteur comme Rousseau, c'est également un homme des rêveries et des promenades. Ce n'est pas simplement une vision d'une société qui serait auto-transparente à elle-même par le biais du contrat, etc. L'œuvre de Rousseau ne se résume pas à un argument juridico-politique qui, à un moment donné, a fait coupure par rapport à d'autres débats de même ordre. Donc je crois qu'il y a toujours eu, dans l'œuvre de Gilbert Durand, l'idée de dire qu'à l'intérieur d'une œuvre, finalement, on peut appliquer aux auteurs la propre mythanalyse que Durand applique au phénomène culturel. Et parce que nous sommes, d'après Gilbert Durand, notre psychisme est fait de ce mariage. D'ailleurs, y compris l'œuvre de Durand, là je regrette qu'il ne soit pas ici, y compris son œuvre à lui. On peut dire qu'il y a dans l'œuvre de Durand, effectivement, des polarisations qui sont beaucoup plus fortes suivant certains textes que d'autres.
Je pense par exemple, quand on voit un recueil comme L'âme tigrée, on voit bien qu'effectivement, qui est un recueil d'articles publiés sur divers thèmes, on voit qu'effectivement, il va accentuer certains aspects de sa pensée plutôt que d'autres. Et de même dans Beaux-Arts et Archétypes, suivant les œuvres qu'il aborde, etc. Donc, ce qui vaut pour le mental individuel préside aussi à notre orientation cognitive. C'est-à-dire qu'on va aborder un phénomène souvent avec un régime psychique différent, et ça va donner effectivement un type, y compris ça peut donner un type d'écriture différent. Alors, vous avez raison, la critique du cartésianisme, sur toute une série d'aspects, elle n'est plus à faire en tant que telle. Je crois que ce que Gilbert Durand veut montrer aujourd'hui, c'est que nous sommes en train de redécouvrir un nouveau rapport à la vérité qu'un certain type de métaphysique, dont le cartésianisme a été un moment particulièrement éminent, a en quelque sorte occulté. Et là, je ne veux pas faire référence à des travaux sur l'Antiquité grecque, je pense à un travail très classique de Marcel Détienne, Les maîtres de vérité dans la Grèce archaïque, qui est un livre assez intéressant où il analyse précisément le statut de la vérité et de la croyance dans l'époque pré-socratique, où il montre que ça n'était pas du tout la même chose, que le statut du mythe était tout à fait différent à cette époque-là qu'il ne l'est devenu lorsque le mythe a pris une valeur illustrative dans des discours où on affrontait des arguments logiques, ce que dit Durand, mythos, logos. Mais je crois que pour Gilbert Durand, aujourd'hui, on est en train d'élargir le spectre de la rationalité. Et dans l'élargissement de ce spectre de la rationalité, se trouve réintégrer effectivement des modalités de la connaissance qui, pour être entre guillemets non rationnelles, n'en sont pas pour autant irrationnelles.
Monsieur.
Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous avez parlé de ce qu'il y avait eu des répercussions sur le mythe des découvertes de 1905.
Oui.
Tout à fait d'accord avec vous, bien sûr. Et ma question porterait sur qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que vous pensez qu'il y aura des incidences sur le mythe des dernières découvertes physiques ? Je pense bien sûr au boson de Higgs qu'on a étudié ici, etc., etc. Et puis l'arrivée de l'homme sur Mars, etc., etc. Est-ce qu'il y aura des incidences sur le mythe ? Merci, monsieur.
Là, vous me posez une question, je peux répondre qu'à titre personnel.
Oui,
d'abord, je dois vous dire que très modestement, je n'ai pas, je ne possède pas l'immense culture de Gilbert Durand par rapport à toutes les théories scientifiques qu'il évoque. Et vous vous doutez bien que je suis d'une génération donc un peu plus jeune. Et lorsque je le vois commenter un certain nombre de théories par rapport à d'autres, j'ai parfois beaucoup de mal à voir par où passe dans cet aspect-là précis ces constructions. Je crois que il a été sensible, je n'étais pas au colloque de Cordoue qui a effectivement marqué les esprits et notamment lui qui l'a beaucoup impressionné. Je crois que ce qu'il a perçu, ce n'était pas bien sûr que Gilbert Durand n'a pas la naïveté de penser qui aurait un principe mythique unificateur dont il suffirait de posséder la clé pour ensuite en faire dériver effectivement éventuellement un certain type de rationalité. Ça, je crois que ceux qui ont interprété souvent en disant mais Gilbert Durand finit par dire des choses n'ont pas lu de près ce qu'il voulait dire. Je crois par contre qu'il s'est posé le problème de la coïncidence entre un certain nombre de systèmes mythiques et cosmogoniques et à un moment donné des redéfinitions de systèmes ou de modalités de rationalité dans d'autres. Et là, je dois dire que effectivement, ce type d'écho ne fait pas preuve. Ce n'est pas un argument logique, mais c'est un argument problématique. au sens, j'allais dire, presque, c'est un obstacle fécondant, presque au sens bachelardien du terme. Ça participe de, quelque part, du nouvel esprit scientifique dont parle Bachelard.
Monsieur Larot.
Bonjour.
Oui, donc, allez-y.
Je voulais poser une petite question. En fait, vous avez parlé de l'influence, je crois, un petit peu des différentes cultures, notamment, je sais, il me semble, vous avez parlé d'Avicenne.
Oui, Averroès.
Averroès, sur par rapport à l'Occident, par exemple. Donc, par rapport à ça, je voulais poser une petite question. Je voulais savoir s'il y avait des équivalents ou des mythes, enfin, de quelques principaux mythes occidentaux, je ne sais pas, le mythe de Sisyphe, de Prométhée ou d'Œdipe, et dans les cultures africaines, amérindiennes ou asiatiques. C'est une petite question.
Là aussi, je suis philosophe et sociologue, mais je ne suis pas ethnologue, donc mes connaissances d'ethnologie sont celles de l'honnête homme qui, en librairie, achète régulièrement les ouvrages de la collection Terre humaine, discute avec des collègues ethnologues de leurs travaux. Là, je n'ai pas compétences fortes. Et bon, ce que je peux dire, hein, à partir des travaux des structures anthropologiques de l'imaginaire, c'est qu'effectivement, Gilbert Durand a montré un certain nombre de coïncidences fortes. J'aurais tendance à dire ces coïncidences fortes, on les trouve même dans l'exploitation, j'allais dire, stéréotypée de mythes dans certaines sociétés, j'allais dire, qui ne sont pas des sociétés de type traditionnel. Il y a quelques années, la chaîne Arte avait fait une très 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 remarquable émission de télévision sur la mythologisation d'un enfant qui avait été assassiné par ses parents à l'époque de l'ère stalinienne, à l'époque où Staline luttait contre les paysans qui s'enrichissaient, etc. Et donc, l'émission montrait comment la propagande, l'idéologie avait reconstruit le modèle de l'assassinat de l'enfant par les membres de sa famille comme un scénario mythique classique. Et c'était très impressionnant parce que le commentaire qui était à l'effort, je ne sais pas si c'était Alexandre Adler ou quelqu'un qui faisait le commentaire en même temps que lui, on voyait effectivement, tout y était, toutes les structures, l'innocence de l'enfant, l'assassinat par ses parents, le niveau sacrificiel, et on voyait effectivement fonctionner quasiment, aussi bien au sens lévi-straussien que durandien, une structure mythique. Une structure mythique, il l'a expliqué, elle a trois caractères, mais elle a aussi trois caractères fonctionnels. Elle a un caractère d'explicitation du rapport de l'homme à son environnement. Elle possède également un principe de légitimation, c'est-à-dire que sur la base du précédent, elle explique d'où vient l'autorité et d'où émane la souveraineté de cette autorité-là. Et enfin, elle a une troisième fonction qui est moins bien, souvent qui n'a été pas étudiée avec suffisamment de soin, une fonction de mobilisation et d'orientation de la société, des comportements collectifs. Ça, c'est quelque chose qu'avait vu, par exemple, quelqu'un comme Georges Sorel dans les réflexions sur la violence, qui était donc un anarcho-syndicaliste révolutionnaire. Et que l'on aille de Sorel à Lévi-Strauss à Gilbert Durand, ces trois éléments, évidemment, ne sont pas dissociables les uns des autres. Chacun soutient les trois autres, vous voyez. Donc, effectivement, on retrouve... Mais je ne pense pas qu'il existe de mythe pur. Hein. Là, je ne le pense pas. Et je sais qu'une des divergences entre Gilbert Durand et Jean-Pierre Vernant et Vidal Naquet, le livre sur les mythes grecs, c'est ça. C'est qu'il y avait la volonté dans l'école, le renouveau de l'école hellénistique française, je pense Vernant, Vidal Naquet, voire même d'Étienne avec certaines variantes, d'essayer de remonter à retrouver l'élément, j'allais dire, narratif pur et originel. Gilbert Durand pense qu'en définitive, il y a toujours eu recouvrement des discours les uns par rapport aux autres.
On va prendre une dernière question là-haut, monsieur.
Bonjour. Alors, moi, j'aimerais savoir ce que vous pensez de la place que peuvent prendre les mythes dans la biologie actuelle. Je prendrais, pour exemple, le clonage, où on peut faire un rapprochement entre le mythe de Prométhée et...
Ou de Frankenstein.
Oui, de Frankenstein ou de Faust. Voilà, bah, j'aimerais avoir un petit élément de réponse.
Là, je ne peux pas vous répondre. J'ai un point aveugle dans ma culture philosophique et sociologique, c'est que j'ai toujours eu beaucoup de difficultés à rentrer dans les... Je ne dis pas que je ne m'y intéresse pas. Hein. Je me rappelle quand j'étais jeune, mon professeur de philosophie de lycée, que Yves Michaud a bien connu, nous avait fait étudier le hasard et la nécessité, et ensuite le texte de Jacob, la logique du vivant. Je veux dire que j'ai toujours eu beaucoup de mal à rentrer dans les réflexions sur la génétique, la physiologie, etc. Donc là, je ne peux pas vous répondre de façon pointue. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que Gilbert Durand, on a évoqué son passé de résistant. Et il a toujours dit la chose suivante, l'anthropologie culturelle, elle nous permet de repérer effectivement la constellation des images, ce qui fait qu'elles fonctionnent les unes par rapport aux autres, à la fois pour nous en émerveiller, mais aussi parfois pour nous en méfier. Car le propre, effectivement, des régimes de l'imaginaire, c'est qu'ils peuvent exercer leur puissance équilibrante ou déséquilibrante, favorable à l'épanouissement de l'homme, ou au contraire, comme il l'a dit à la fin de sa conférence, à sa dégradation, et qu'elle s'exerce souvent à l'insu des individus, et c'est là que leur puissance est la plus forte. Je reprendrai une expression qui n'est pas de Gilbert Durand, mais que Gilbert Durand a souvent fait référence à un auteur qui est un philosophe éminent qui va venir ici, qui est Paul Ricoeur. Il ne faut pas oublier que chaque société, Ricoeur dit, produit son croyable disponible. Et dans ce croyable disponible, effectivement, le spectre est assez large. Les réservoirs mythiques, les réservoirs mythiques sont assez forts. Et n'oubliez pas qu'à partir de là, on ne peut pas expliquer, pour le meilleur ou pour le pire, bon, moi qui ai étudié les utopies plutôt harmoniennes, etc., je pense à Fourier, mais il y a aussi des utopies meurtrières, l'incroyable puissance de mobilisation mythique nous invite effectivement, nous, j'allais dire, les gens qui ont travaillé avec Durand et son école, mais moi je suis assez large d'esprit, j'inclurais y compris les travaux d'autres gens qui ont travaillé sur l'imaginaire, je pense à Cornelius Castoriadis ou à d'autres. Je trouve que, effectivement, la prise en compte et la réflexion sur le mythologique est une manière aussi d'avoir un minimum de contrôle, j'allais dire, d'élucidation, vous voyez, une intelligence des systèmes collectifs à l'intérieur desquels les idéologies jouent un grand rôle.
Alors, je vous demande de remercier Gilbert Durand à distance et Patrick Tacussel pour son rôle pas facile à remplir. Merci.